10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. On se retrouve comme chaque jour en direct et jusqu'à 16h pour partager vos expériences de vie. À mes côtés, ma camarade Ongline, comment
bonjour.
Allez-vous?
Bonjour, ça va bien Olivier, bonjour
bien
à tous.
Vous êtes à ma gauche aujourd'hui.
Oui, mais je vais bouger juste après.
Ici, comme vous le savez, nous parlons de votre quotidien, de ce qui fait votre vie, car votre vécu nous intéresse. Et aujourd'hui, on va parler de l'entreprise. 7 salariés sur 10 déclarent avoir un travail nerveusement fatigant. Au moins 18% d'entre eux auraient été victimes d'un syndrome d'épuisement professionnel appelé le burn-out. Tous ces chiffres qui proviennent d'assureurs comme Malakoff Médéric ou Harmonie Mutuelle notent une chose, le bien-être au travail semble devoir être une priorité. Alors, pour choyer leurs salariés, certaines entreprises n'hésitent pas à y mettre les moyens. Lieux dédiés pour faire la sieste, congés illimités, droit à la déconnexion, corbeille de fruits, méditation. D'autres emploient aussi des happiness managers chargés de faire régner le bonheur au travail. Mais ces méthodes marchent-elles réellement? Est-ce devenu un business qu'être happiness manager? Le bien-être au travail, par quels moyens? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Vous êtes sur votre lieu de travail ou vous êtes à la maison, vous n'hésitez pas à nous appeler. 3921, c'est le standard d'Europe 1. Vous pouvez nous écrire Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe Facebook de la page Facebook sur Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Émilie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Émilie?
J'ai 30 ans et je vous appelle de Paris.
D'où, pardonnez-moi?
De Paris.
De Paris. Alors Émilie, vous travaillez, vous, dans une entreprise dite libérée. Que faites-vous exactement et qu'est-ce que ça veut dire une entreprise libérée?
Alors qu'est-ce que ça veut dire une entreprise libérée? C'est tout simplement libre d'entreprendre et de s'organiser. C'est-à-dire que dans mes journées, je peux m'organiser comme je l'entends, que ce soit au niveau de mes horaires, de mon lieu de travail, de mes vacances ou même de mon salaire.
D'accord. Et dans votre entreprise, pardon, on se met beaucoup l'accent sur le télétravail et sur les horaires libres. Vous venez un peu quand vous voulez au travail?
Alors en fait, chez Fasterize, on a mis en place des systèmes de communication pour travailler très facilement en télétravail. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nos équipes qui est tout le temps en télétravail par choix,
oui,
qui sont dans d'autres régions, Nantes, Lyon, Brive.
Oui.
Et moi qui suis à Paris, on a des bureaux où on peut venir quand on veut, les jours qu'on veut, aux horaires qu'on veut. Et je peux décider aussi du jour au lendemain de me mettre en télétravail. Je n'ai pas besoin d'avoir une validation d'une quelconque personne pour ça.
Qu'est-ce que cela vous apporte au quotidien? Vous vous sentez plus libre, ça on l'entend dans votre description, mais d'être moins sous la contrainte en fait, ça améliore vos performances?
Alors déjà il y a le fait de sentir qu'on nous fait confiance.
Oui.
Je pense que c'est un élément très important. Après, à titre plus personnel, c'est une facilité d'organisation. Si j'ai un rendez-vous X ou Y, par exemple, un rendez-vous médical, j'ai pas besoin d'absolument prendre ce rendez-vous en dehors de mes horaires de travail habituels. Je peux les prendre en journée et après, j'organise ma journée comme je l'entends.
Mmh.
Donc, c'est vraiment une liberté d'organisation qui libère l'esprit et qui facilite vraiment le quotidien.
Et c'est une relation employeur-employé basée sur la confiance.
Sur la confiance et globalement, au niveau de l'entreprise libérée, beaucoup la transparence aussi. Parce que sans transparence, ça ne peut pas fonctionner.
Mmh. Avant d'intégrer cette entreprise, vous étiez salarié dans des sociétés qui avaient une approche un peu plus classique. Vous sentez vraiment la différence dans votre productivité, dans votre bien-être aujourd'hui?
Alors oui, parce que par exemple, quand je suis en télétravail, il m'arrive d'être beaucoup plus concentrée sur un sujet et donc d'être beaucoup plus productive.
Ouais.
À l'inverse, quand je suis au bureau, j'échange aussi beaucoup plus avec mes collègues. Donc ça joue à la fois sur le partage d'informations, mais aussi sur la convivialité. Donc en fait, les deux formats ont un grand intérêt.
Ouais.
Et la liberté, comme je disais tout à l'heure, de ne pas avoir à demander ou à justifier auprès de quelqu'un d'autre, ça simplifie vraiment les choses. Ne pas avoir à aller demander à un N plus 1, parce que je n'ai pas de N plus 1 chez Fasterize,
oui,
mais c'est, pour son organisation et pour son travail, c'est quand même beaucoup plus simple.
Est-ce que c'est finalement du gagnant-gagnant pour l'employé et l'employeur, cette méthode ?
Alors, quand vous me demandez cette méthode, vous parlez de l'entreprise libérée ou du remote ?
De l'entreprise libérée, de tout ce que vous venez de me décrire. Est-ce que tout le monde s'y retrouve, l'employeur et l'employé ?
Je pense que oui, parce que moi, en tant qu'employé, déjà, j'ai une reconnaissance qui est beaucoup plus forte que ce que j'ai pu connaître dans le passé.
Ouais.
Je me sens beaucoup plus impliquée. En fait, quand on dit entreprise libérée, ça veut dire aussi qu'on est responsable de plein de sujets. C'est presque comme si l'entreprise nous appartenait à nous aussi. Donc, on se sent beaucoup plus impliquée. Et c'est dans ce cas-là aussi que je pense que l'entreprise s'y retrouve. C'est que du coup, on a beaucoup plus de visibilité sur comment fonctionne la société et on ne va pas prendre des décisions complètement décorrélées de l'actualité de l'entreprise.
Mmh. Est-ce que parfois le fait d'être en télétravail ne vous donne pas envie de travailler ? Est-ce que ça vous arrive d'être un peu plus passive que si vous étiez au bureau ? Est-ce que vous avez déjà ressenti cela, le fait d'être à la maison et de pouvoir gérer son temps comme on veut et finalement, à un moment, peut-être marquer le pas ?
Alors, je pense qu'en effet, le télétravail, c'est comme chacun le ressent, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont pouvoir faire du télétravail à temps plein et ne pas avoir ce côté passif qui viendra parce que, voilà, simplement, c'est dans leur trait de caractère.
Oui.
Il y en a avec qui j'ai déjà discuté qui m'ont dit qu'ils ne se verraient pas du tout faire du télétravail parce qu'ils savent qu'il y aurait trop de distractions chez eux.
Mmh.
Moi, je trouve mon équilibre avec les deux, c'est-à-dire que on a chez Fasterize une journée par semaine le vendredi où on est tous en télétravail.
Mmh.
Et moi, à titre personnel, je choisis là en ce moment de faire un peu plus de télétravail. Mais à partir du moment où je sens moi-même que ma productivité n'est plus là, j'adapte aussi mon rythme. Au-delà ne serait-ce que du télétravail, c'est aussi sur mes horaires, sur mes jours. Voilà, je suis vraiment libre de travailler quand je veux, d'où je veux.
Il n'y a pas photo, en tout cas, entre votre productivité, votre rendement, entre l'entreprise un peu plus classique dans laquelle vous étiez avant et dans cette entreprise libérée aujourd'hui.
Non, moi, je ressens pas de différence.
Mais vous ne ressentez pas de différence ou vous vous sentez même plus productive ?
Alors, je me sens plus productive dans le sens où quand je suis en télétravail, En effet, je suis isolée et donc je suis totalement concentrée sur mes sujets.
Ouais,
et c'est vrai que quand on est en entreprise, un collègue qui passe pour dire bonjour, très vite on peut être déconcentré.
Ouais,
voilà,
ouais,
happé. Ouais. C'est pour ça que je dis que moi, mon équilibre est vraiment entre les deux.
Mmh. Merci beaucoup, Émilie, pour votre appel et pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Nous serons dans quelques instants avec Alexis. Il est ce qu'on appelle Happiness Manager, cela consiste à créer du bonheur dans une entreprise et c'est aujourd'hui un nouveau véritable métier.
Europe 1.
Coaching, un temps de sieste, le droit à la déconnexion, que fait votre entreprise, votre patron pour que vous vous sentiez bien au travail? On vous écoute au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons du bien-être au travail, une entreprise qui met des moyens en œuvre pour que ses salariés se sentent bien, soient performants. Vous témoignez au 3921.
Et nous avons eu Émilie en première partie de cette émission qui nous expliquait être aujourd'hui dans une entreprise libérée qui finalement lui donnait la possibilité d'aller et venir et de travailler chez elle et d'être contrainte un petit peu quand même de venir à l'entreprise et qu'elle se sentait vraiment mieux dans ce schéma-là aujourd'hui. Elle qui avait travaillé assez longtemps dans une entreprise classique. Nous sommes maintenant avec Alexis. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Alexis.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 30 ans, j'appelle de Saint-Grégoire à côté de Rennes.
D'accord. Alors, vous êtes, Alexis, ce que l'on appelle un happiness manager. C'est un nouveau métier. En quoi cela consiste-t-il exactement ?
Alors déjà, il y a plusieurs titres, happiness manager, chief happiness officer, responsable du bonheur, ou on l'appelle aussi responsable de l'expérience collaborateur. Mais en fait, je pense que finalement, le métier, il est spécifique à chaque entreprise et notamment il est vraiment lié finalement à la raison d'être,
ouais,
de la boîte, et il va se construire autour du fameux why. Ce qu'on appelle le why, c'est le pourquoi,
ouais,
et les différentes valeurs de la boîte. Et finalement, c'est comme un médiateur. Donc, je pense qu'il y a un happiness, finalement, pour chaque entreprise, et ces missions vont se construire en fonction de la boîte, finalement. Donc, mais l'intention première de l'happiness manager, c'est finalement d'aider les collaborateurs de la boîte à être plus épanouis, et ça passe généralement par trois axes qui sont l'amélioration de leur bien-être au quotidien,
oui.
Que ce soit les espaces de travail ou les services, faire vivre des expériences un peu enchantées, une aventure un peu incroyable en interne à partir du moment où la personne a mis le pied dans la boîte et jusqu'à son départ.
Mmh.
Et parce que si on veut prétendre effectivement mieux servir nos clients, il est selon nous nécessaire de mieux servir nos collaborateurs. C'est ce qu'on appelle la symétrie des intentions. Et la dernière chose, c'est de faire grandir la performance, donc par le coaching personnel et le coaching professionnel, que ce soit le coaching d'équipe ou le coaching perso. Donc là, je vais accompagner, par exemple, des personnes sur 3 mois autour de problématiques de gestion du stress, de confiance en soi.
Mmh.
Voilà.
Mmh. Vous êtes dans une entreprise qui est composée d'à peu près 200 salariés, je crois.
Ouais. Ouais.
Comment d'abord vous en êtes arrivé à ce poste-là? Et est-ce que vous étiez déjà dans cette entreprise ou vous avez intégré cette entreprise à un moment X?
Non, pas du tout. En fait, moi, je suis sorti d'une école de commerce. J'étais diplômé d'un Master 2 en école de commerce en 2012.
Ouais.
Et j'ai pris une voie, on va dire, plutôt classique, donc des grosses boîtes parisiennes où j'ai été consultant à Paris pendant 2 ans.
Mmh.
Et finalement, je suis revenu dans ma région après où j'ai été ingénieur commercial. Donc là, je devais placer certaines personnes en mission. Mmh. Sauf que c'était dans des grandes boîtes dans lesquelles il n'y avait pas forcément de sens. En fait, on réfléchissait très court terme, très, très chiffres. Et donc, du coup, moi, j'arrivais pas à me projeter à moyen ou long terme. Et donc, du coup, j'ai fait une sorte de mini burn-out parce que je bossais beaucoup. J'avais un très, très bon salaire en tant que commercial, mais ça manquait de sens. Donc, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti en tour du monde pendant 1 an. Et en fait, j'ai fait des défis autour du monde en vidéo. Et quand je suis revenu, j'ai lancé ma boîte. J'ai fait une formation de coaching en neurosciences à Paris.
Oui.
Et puis, j'ai monté ma boîte et j'ai fait du podcast d'entrepreneur à Rennes. Et je suis tombé sur Olivier Méril, avec qui on devait avoir un entretien de 30 minutes. Finalement, ça a duré 3 heures. On a partagé des valeurs communes. Et voilà comment je suis arrivé au poste de Chief Happiness Officer.
Alors, je voulais vous demander, Alexis, est-ce que vous agissez aussi au niveau personnel des salariés? Est-ce qu'on peut venir, enfin, vous n'êtes pas psychologue, mais est-ce qu'on peut venir vous voir pour raconter un problème avec un collaborateur, un patron? Et est-ce que vous essayez de gérer aussi des différences entre les salariés par rapport à ça?
Alors moi, je vais privilégier généralement sur la performance. Effectivement, je suis pas un psychologue, je suis un coach. Donc le psychologue va plutôt regarder un petit peu dans le passé. On est plutôt sur de la psychologie freudienne. Moi, je vais plutôt prendre la personne à un instant A avec son problème A. Déjà, la personne, elle vient pas avec un problème. Elle va venir avec un objectif. Et on va travailler sur 3 mois, à hauteur de 45 minutes par semaine. Et on va essayer de travailler sur des techniques nouvelles chaque fois, chaque semaine où on se voit. Là, je vous donne un exemple. La personne qui organise mal son temps, ça c'est une grande problématique dans beaucoup de boîtes. Et ben on va tester différentes techniques chaque semaine qu'elle va mettre en place. Et à la fin, elle va me dire, bah, écoute Alexis, ça me va, ça me va pas. Et elle va adopter certaines méthodes. Donc on essaie d'être proactif et de faire progresser la personne. Voilà.
Alors vous êtes happiness manager depuis maintenant 4 mois, Alexis.
Oui.
Je pense à tous ces patrons un peu tradis, hein, qui nous écoutent, voilà,
ouais.
Qui ont connu l'entreprise vraiment depuis 40 ans, où le télétravail, ils le voient du mauvais œil, et puis d'un mauvais œil, et puis toutes les happiness managers aussi. Est-ce que en fait, à ceux qui ont peur que ce travail ne soit pas efficace, soit finalement éphémère, précaire, parce qu'il appartient à l'ère du temps, qu'est-ce que vous avez à leur répondre à ça?
Moi, je peux leur dire déjà peut-être de s'ouvrir seulement, de venir nous écouter, d'écouter les entreprises qui ont déjà mis en place ce type de système, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le bonheur au travail, il dépend en fait des valeurs de l'entreprise, donc il faut que ce soit aligné. Donc je pense qu'ils peuvent venir déjà s'ouvrir,
oui,
à ce qui se fait dans les entreprises qui ont déjà lancé ce métier,
oui,
et voir les résultats qu'il peut y avoir à moyen ou long terme. Aujourd'hui, je vous donne un simple indicateur, on est entre 13 et 15% de turnover moyen en France, nous on est à 2-3%.
Oui.
Donc quand on garde nos talents, effectivement on gagne finalement de l'argent et finalement adopter une vision d'entreprise à long terme, ça permet d'investir sur le capital humain et non sur la pression.
Mmh.
Voilà. Et donc je pense que l'entreprise, elle doit répondre à ça au niveau justement de la génération des millennials qui arrivent, qui ne recherchent plus la pression, mais qui recherchent un boulot où ils sont épanouis.
Mmh. Optimiser, en tout cas, cette entreprise, c'est aussi votre travail.
Ouais, c'est optimiser. Alors, optimiser l'entreprise, c'est plutôt optimiser l'expérience collaborateur. Il y a d'autres personnes qui sont là pour optimiser l'entreprise. Moi, je suis vraiment là pour optimiser finalement
le lien.
Le lien à partir de. En fait, je suis le reflet, la projection de la vision du patron. C'est-à-dire que la vision opérationnelle, c'est-à-dire que je vais opérationnaliser les valeurs qu'il défend et le combat qu'il défend. Et essayer d'emmener tout le monde pour finalement créer non pas des gens satisfaits ou des gens motivés, mais des gens engagés. Et ça, je peux vous dire que ça change tout quand vous êtes engagé pour une cause. Et pour une entreprise.
Vous restez avec nous en ligne, Alexis. Dans quelques instants, nous allons accueillir Lionel Cagnard-Leroy, qui est psychologue du travail. Et on va pouvoir continuer à échanger sur ces nouvelles améliorations de conditions au travail.
Europe 1.
Quand le salaire, le poste ou un titre ne suffisent plus à l'épanouissement des collaborateurs, quelle importance donnez-vous au bien-être sur le lieu de travail ? Vous nous racontez au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et si des chats, des tables de ping-pong, des canapés confortables, des plantes, des corbeilles de fruits faisaient partie des bonnes idées pour se sentir bien au travail ? Vous nous racontez au 39-21.
Une bonne corbeille de fruits, Ouline.
Moi, j'aime bien les chats. J'aime bien l'idée que le chat circule dans un studio, par exemple.
Nous accueillons maintenant Lionel Cagnard-Leroy, psychologue du travail. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bonjour, alors 61% des salariés aimeraient bénéficier dans leur entreprise de services pour faire de l'exercice et 53% voudraient améliorer leur sommeil. C'est en tout cas le résultat d'une étude réalisée en 2018 par l'assureur Malakoff Médéric. C'est parce que le travail est trop oppressant, trop prenant qu'on souhaite s'en détacher un peu par le sport ou par le sommeil à un moment de la journée ?
Le travail, c'est d'abord un lien de subordination, il ne faut pas oublier ça. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à analyser les causes-conséquences d'une organisation particulière. Mmh. J'ai envie de dire, je crois qu'on devrait apprendre à tout le monde à l'école les fondamentaux de l'analyse du travail. Qu'est-ce qu'une tâche ? Qu'est-ce qu'une activité ? Qu'est-ce que le prescrit ? Qu'est-ce que le réel ? Oui. Rien que ça, déjà, si on arrivait à s'y retrouver, ce serait beaucoup mieux. Mmh. La tâche, c'est ce qu'on a à faire. L'activité, c'est ce qu'on met en branle pour arriver à faire, à parvenir à la tâche. Parce qu'il y a toujours de l'inattendu dans le travail. Oui. Toujours une surprise dans le réel. Quelqu'un qui fait une douche dans un EHPAD, un jour, il n'y a pas d'eau chaude, il va faire comment ? Ça, c'est du vécu, ce que je vous dis.
Ouais.
Il va essayer de bricoler quelque chose pour trouver une solution. Il va réussir à faire la tâche. Alors du coup, ça donne une certaine définition du travail. Le travail, c'est faire des choses qu'on ne nous demande pas de faire pour parvenir à faire ce qu'on nous demande de faire. Mmh. Vous arrivez à suivre ?
Oui, complètement.
C'est pas trop...
Je vous suis.
Ça peut paraître alambiqué.
Non, c'est un peu alambiqué, mais j'essaie de suivre et je vous entends parfaitement. On entendait le témoignage d'Alexis qui est happiness manager, un métier de plus en plus en vogue. Le bien-être au travail, ça ne serait pas aussi devenu une mode et qui peut donc être éphémère ? Ou est-ce qu'à votre avis, ce type de nouveau poste dans les entreprises, il répond à une nécessité ?
Ça répond à une certaine nécessité, mais en fait, il y a quand même une obligation légale de bien-être au travail. Si on regarde la directive européenne de 82, elle oblige à il y a une obligation de résultat et de moyens et de résultats concernant la santé des salariés physiques et mentales. Mmh. Et du coup, qu'on passe par un happiness manager ou autre chose, ou un autre type d'organisation, comme en a parlé Émilie, pourquoi pas ? La question après, c'est de faire retour d'expérience, d'essayer de demander aux gens qui vivent ça, comment ils le vivent, ils le vivent, et comment ils peuvent éventuellement en tirer des leçons d'amélioration, pourquoi pas aussi.
Mmh. Alexis, lorsque vous entendez Lionel Cagnard-Leroy parler de tout cela, le bien-être au travail, il passe par quoi aujourd'hui, à votre avis, vu vos 4 mois d'expérience en tant que happiness manager ? Quelle piste, quelle méthode donne les meilleurs résultats ?
Alors c'est vrai que déjà, 4 mois d'expérience en tant qu'happiness manager,
c'est court.
C'est assez court, mais effectivement, pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 grands axes qui sont majeurs. C'est effectivement l'amélioration du bien-être de la personne au quotidien. On va essayer de faciliter son travail et faciliter son quotidien. Donc ça, par exemple, voilà, je vous donne un exemple. L'amélioration du bien-être, nous, tous les midis, on a une société qui vient nous faire des cours de sport pendant une heure dans les locaux. Donc yoga le lundi, pilates le mardi, boxing le mercredi, etc.
Le yoga est excellent, donc, ça se fait de plus en plus dans les entreprises. Allez-y, continue.
Et la personne revient bosser l'après-midi et elle est vraiment au top, elle se sent au top, elle se sent bien, vraiment. Ouais. La deuxième chose, ça va être effectivement sur les expériences qu'on va vivre en collaboration. Donc ça, c'est un des premiers axes que recherchent finalement les gens quand ils cherchent du boulot. C'est plus le salaire qui est numéro un, c'est mes collègues. Est-ce que je vais bien m'entendre avec mes collègues? Donc ça, c'est la première chose. Et donc, on fait vivre des expériences en commun. Donc par exemple, je vous donne un exemple, il y a le petit-déj des nouveaux tous les mois. Le petit-déj des nouveaux, c'est tous les nouveaux qui arrivent, par exemple au mois de mars, ont un certain budget et vont préparer le petit-déjeuner pour tous les autres collaborateurs. Ça crée du lien, c'est juste génial. Mmh. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et enfin, le troisième axe, effectivement, c'est de faire grandir la performance, que la personne, elle se sente vraiment utile et qu'elle se sente progresser. Donc ça veut dire autant sur le savoir-faire auprès des métiers directement, donc les responsables de pôle, les experts sur certains métiers, mais aussi sur le savoir-être. Et là, c'est ma mission, c'est de les accompagner pour prendre confiance auprès des clients. Par exemple, ceux qui sont en contact avec les clients au téléphone, c'est pas toujours simple quand on n'a pas l'habitude d'avoir un client en front directement. Donc il faut apprendre à le faire, donc je les aide là-dessus. La gestion du stress, la gestion des émotions, la CNV, communication non violente. Donc moi, je me forme perpétuellement pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et je pense qu'à partir de ces trois ingrédients-là, la personne, elle peut être véritablement épanouie.
Lionel Cagnard-Leroy, lorsqu'on entend Alexis parler de ces trois axes, on entend la volonté que le salarié se sente entendu et considéré.
Oui, mais il faut demander au salarié s'il aime faire du sport. Il y en a qui vont se sentir obligés parce que tout le monde en fait. Le petit déjeuner, c'est comme le dit Alexis, c'est génial, peut-être. Mais qui vous dit que dans le lot, il y a des gens qui disent « Mais qu'est-ce que je fous là à faire un petit déjeuner avec des gens que je ne connais pas, que je n'ai pas forcément envie de connaître ?»
Moi, sincèrement, ce n'est pas un truc qui me brancherait spécialement. Mais bon, si tout le monde le fait, peut-être que ça crée un engouement. Un lien,
Est-ce qu'on donne la parole à ceux qui voudraient, non pas aller à contre-courant, mais être respectés dans des choix autres, et pas forcément être inclus dans un collectif obligé?
Alexis, est-ce qu'on donne la parole à ceux qui, à un moment, disent « bah moi, non, le petit déjeuner, non merci ».
Exactement, c'est-à-dire que les gens, nous on force personne à venir. Alors effectivement, peut-être qu'il peut y avoir il peut y avoir ce sentiment-là. En tout cas, moi, c'est pas ce que je ressens. Et quand il y a des personnes, effectivement, là, par exemple, on va faire le marathon. Dans deux semaines, la boîte nous offre le marathon. Mmh. On est 10 personnes à le faire. Voilà, tout le monde ne fait pas le marathon. Donc effectivement, on va faire un coaching spécifique pour ces gens-là, par exemple, pour les entraîner. Mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qui préfèrent la culture? Eh bien, c'est mon rôle, ça, justement, d'aller écouter ces personnes-là. Mon bureau, il est constamment ouvert. Les gens, ils peuvent venir me voir. Ils me disent « Alexis, j'aimerais, par exemple, que tu fasses un truc, une sortie théâtre par mois, par exemple. » Et pouvoir répondre à tout le monde. Après, on a une définition du travail qui est complètement différente, c'est-à-dire que si la personne, ses croyances initiales sur le travail, c'est un endroit où je dois trimer, où je dois travailler dur, eh bien ça, c'est peut-être pas la bonne boîte.
En tout cas, ce que j'entends dans votre témoignage, c'est que le travail, où l'on travaille, où l'on passe beaucoup de temps, il est vrai qu'il est important de s'intéresser aux liens et aux améliorations entre salariés que l'on peut créer. Et c'est ce pourquoi je pense que ce métier d'happiness manager est un nouveau métier, mais qui risque de durer. Et pour cela, je vous remercie de votre témoignage aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1, Alexis. Lionel Cagnard-Leroy, je rappelle que vous êtes psychologue du travail et dans quelques instants, vous restez en ligne avec nous, et dans quelques instants, nous allons accueillir Charles, qui est, lui, chef d'entreprise et se dit très attentif au bien-être de ses salariés.
Et Karine nous écrit sur Facebook, elle est infirmière, cadre de santé, sophrologue. Je fais des séances de sophrologie en entreprise qui ont un réel succès car elles diminuent le stress et la pression, permettent une meilleure concentration ainsi qu'une meilleure estime et confiance en soi. Europe 1. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien sur votre lieu de travail? On vous attend au 3921 et vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Quelles sont les clés pour se sentir bien au travail? Vous êtes patron, manager, comment faites-vous pour que vos salariés soient heureux de venir le matin? Vous êtes salarié, quelles sont les bonnes idées de votre entreprise? Vous témoignez, Olivier Delacroix vous attend au 3921.
Et avant d'accueillir Charles, qui est lui PDG d'une entreprise et qui se soucie énormément du bien-être de ses salariés, nous sommes toujours en ligne avec Lionel Cagnard-Leroy, Lacroix, psychologue du travail. Monsieur, en fait, j'avais envie de vous demander, faire du travail un lieu de vie où l'on joue, où l'on rencontre ses collègues, où l'on peut faire une pause, une sieste, un petit déjeuner comme on a vu, et mélanger un peu tout dans un lieu de travail. Est-ce que ça peut être dangereux au final ?
Je dirais pas que c'est dangereux, je dirais pourquoi pas. C'est pas la question, elle revient surtout à essayer de s'interroger sur alors il y a la question du collectif, mais il y a aussi ce plaisir au travail. Qu'est-ce que c'est que ce plaisir au travail ? Est-ce que c'est un plaisir à côté du travail, un plaisir au service du travail, ou juste le plaisir de faire son travail ? Et comment trouver le plaisir de faire son travail en se disant tous les soirs, ça y est, j'ai surmonté les imprévus du réel, j'ai réussi, j'ai dépassé un objectif ou autre. Voilà, c'est ça qui est intéressant, fondamentalement, avant tout le reste.
Mmh. Alors, on va en parler justement avec le PDG d'une entreprise. Bonjour Charles, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, merci, bonjour Olivier.
Bonjour, vous nous appelez d'où et quel âge avez-vous, Charles ?
Donc, je vous appelle de Paris, j'ai 31 ans.
Vous avez 31 ans, un jeune patron. Un jeune patron d'entreprise, l'entreprise s'appelle Toucantoco, une entreprise numérique qui gère des données. Donc, vous avez créé cette entreprise en 2014 et dès le départ, vous l'avez conçue en pensant à vos salariés. C'était une donnée très importante pour vous. Expliquez-moi pourquoi.
Ouais, pour nous, c'était vraiment essentiel dès le démarrage de se dire okay, comment on fait pour construire une boîte qui est pérenne, qui va durer dans le temps, qui ne sera pas, je dirais, un feu de paille ou une étoile filante, d'investir énormément sur la culture d'entreprise, le bien-être et notamment ce dont on est assez fier, c'est les valeurs.
Oui.
Avoir construit les valeurs de l'entreprise alors qu'on était moins de 10 et continuer à les faire évoluer encore maintenant, c'est quelque chose qui nous permet, hyper important, pour avoir un socle commun qui aligne l'ensemble des gens qui travaillent ici. Quoi.
Vous êtes combien aujourd'hui ?
On est 75.
75, donc c'est quand même déjà une bonne entreprise. J'ai vu que vous aviez des bureaux volants, par exemple. Vous pouvez m'expliquer le concept des bureaux volants ?
Le concept est très simple, hein, c'est de se dire comment on fait pour éviter qu'il y ait des silos qui se créent,
ouais.
Et d'avoir d'un côté les équipes marketing, d'un côté les équipes sales, d'un côté l'équipe développeur, et que vous revenez 6 mois après, vous avez 4 boîtes, 4 ambiances, 4 visions.
Ouais.
Comment on fait pour garder un alignement, une bonne cohérence et une bonne proximité des équipes ? Et ben, on se dit, toutes les semaines, on encourage les gens à changer d'endroit. Donc, quand on a une certaine stabilité à la semaine, c'est pas la compétition pour dire faut venir tôt le matin pour avoir un bureau.
Ouais.
Il y a une place pour tout le monde. Mais on encourage toutes les semaines, parfois c'est toutes les 2 semaines, ça dépend des personnes, mais à changer de voisin, parce que changer de voisin, c'est changer les personnes avec qui on fait une pause, c'est changer les personnes avec qui on échange et on parle de ce qu'on fait. Quoi.
Mm-hmm. Donc
pour nous, c'est la manière hyper simple de que les gens se partagent l'information.
Et puis qu'ils se connaissent mieux finalement, parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans chaque service, on ne connaît pas les autres, alors que là, cette idée de bureau volant est excellente. Vous dites que le bien-être passe aussi par le fait de donner confiance aux salariés. Comment faites-vous pour leur donner confiance, vous ? Vous
alors,
déléguez ?
Pour donner... Oui, il y a beaucoup de délégués et surtout beaucoup de communication et de transparence.
Ouais.
Le point essentiel, c'est que les gens sachent finalement qu'est-ce qui peut se passer à côté, comment on peut leur apporter un maximum d'informations. C'est pour ça que nous, on a aussi très tôt mis en place un rituel qui s'appelle un all-hands meeting une fois par mois, où toute la boîte est réunie pendant 1 heure et chaque équipe vient présenter pendant 4 minutes ses objectifs, enfin ce qu'elle a pu réaliser le mois passé et qu'est-ce qu'elle veut réaliser le mois suivant.
Mm-hmm.
Coupler ça avec ce qu'on appelle un wiki interne pour vraiment avoir une connaissance écrite et partagée, c'est une manière de rendre tout le monde acteur et contributeur finalement de la connaissance interne.
Et le télétravail dans tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous est demandé par vos salariés, que vous accordez facilement ?
Ah oui, bon, plus qu'accordé, c'est quelque chose qui est dès le début qu'on a mis en place. Que nous, encore une fois, en tant que boîte numérique, on est très dans la culture, je dirais, digital nomade.
Oui.
Et la force d'une équipe, c'est de savoir bosser de n'importe où.
Mm-hmm. Votre activité, permettez-moi, en fait, quand même, cette activité, elle permet de travailler de chez soi. ce qui n'est pas le cas de tous les salariés.
Ah oui, ça c'est vrai. Voilà, on a cette chance-là. On a cette chance-là que quasiment tout le monde peut, à un moment de la semaine, au moins travailler chez lui. Mmh. Parce que le commercial, oui, il va en rendez-vous, mais il y a toujours un moment où le commercial a du travail, je dirais, de back-office à faire, mais il peut le faire finalement d'où il veut. Et pourquoi on a décidé de le mettre en place dès le début ? Parce que ça répond à un vrai besoin, quoi. Mmh. Un vrai besoin, parfois, d'être plus au calme, de ne pas prendre deux fois une demi-heure ou parfois même deux fois une heure dans les transports. Mmh. On préfère que les gens soient vraiment dans les meilleures conditions. Une garde d'enfants, parce que voilà, il peut y avoir des grèves à l'école ou le passage d'un plombier. Bah, faut pas que les gens prennent une journée de vacances parce qu'ils ont une contrainte qui leur arrive dessus, quoi. Mmh. Et donc, on préfère leur dire, bah, pas de souci, travaillez de chez vous et vous serez tout aussi bien, plutôt que d'avoir cette pression à venir au boulot, quoi.
Je pense à tous les meneurs, les entrepreneurs, les PDG qui écoutent votre témoignage, Charles, tellement plein de bienveillance, de confiance vis-à-vis de ceux que vous employez. Et je rappelle que vous avez 75 salariés aujourd'hui, donc ça n'est pas une mince affaire de mener une entreprise avec autant de salariés. Merci pour votre témoignage précieux sur l'antenne d'Europe 1 aujourd'hui. Nous accueillerons dans quelques instants Amandine. Elle travaille dans un cabinet de consulting, mais cela ne se passe pas très bien. Elle aimerait changer les choses et on va savoir quelle chose elle veut changer.
Europe 1.
Alors comme Charles au 39-21, vous êtes très attentif au bien-être de vos salariés. On vous écoute et on vous lit via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Twitter également, hashtag Europe 1. Quand les conditions de travail, des attentions, des moments de décompression vous permettent de vous sentir mieux au bureau, on parle du bien-être au travail cet après-midi. Vous êtes avec Olivier Delacroix, le 39-21, pour nous appeler.
Et nous sommes maintenant avec Amandine. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Amandine ?
Alors, j'ai 28 ans et je vous appelle depuis Paris.
Depuis Paris. Alors, vous travaillez depuis plus d'un an dans un cabinet de consulting. Très vite, vous avez commencé à aller au travail avec la boule au ventre. Pourquoi ? Consulting en quoi exactement ? Parce que ça peut être un rapport avec aussi cette petite boule au ventre et ce qu'on vous demande de faire.
Alors, honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit le consulting typiquement qui soit à l'origine de cette boule au ventre,
bon,
comme vous l'appelez. Je pense que c'est des choses qui sont très communes dans plein de métiers, puisque en fait, en parlant un petit peu de mon histoire autour de moi, je me suis rendu compte que c'était arrivé à plein de gens.
Ouais.
Et donc, pour répondre à votre question de comment c'est arrivé, en fait, il y a eu plein de choses additionnées. Dans le métier que je fais actuellement, on est amené à changer très souvent de mission, de client, etc.
Oui.
Et quand vous arrivez en entreprise, on vous vend des choses. On vous dit, voilà, on va essayer d'écouter tes appétences, tes envies, ce que tu as envie de développer, etc. Donc, sur le papier, c'est génial. Et en fait, c'est pas si simple, je pense, pour eux. Et dans la réalité, en fait, le fait est que on a besoin de vous à un endroit, on vous pose là, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, c'est la même chose. Et de l'exprimer aujourd'hui, c'est encore quelque chose de très compliqué.
On a l'impression, en vous écoutant, que vous vous êtes senti comme, d'abord dans un premier temps, trahi par rapport à l'entretien d'embauche que vous avez eu et tout ce qu'on vous promettait. Et puis qu'ensuite, vous vous êtes senti n'être qu'une salariée, presque un numéro dans votre entreprise. Est-ce que c'est, je me trompe ou est-ce que c'est un peu comme ça que vous l'avez vécu ?
Non, c'est exactement ça. En fait, on en parle souvent entre collègues et on se dit, en fait, on a un sentiment d'être un pion parmi tant d'autres et que voilà, on nous place là parce qu'il y a besoin. Et que oui, on nous a comme menti ou enjolivé la chose en fait en entretien. Mmh. Et que dans la réalité, c'est pas exactement comme ça que ça se passe.
Et est-ce que vous avez essayé au début, fort des promesses que vous aviez reçues, est-ce que vous avez essayé de faire remonter en fait ce que vous désiriez à votre hiérarchie ?
Oui.
Et alors, comment ça s'est passé ?
Il y a plusieurs choses. Je pense que pour eux, c'est compliqué d'écouter les envies de chacun, ce que je peux tout à fait entendre. Mmh. Y a aussi le fait que c'est pas quelque chose de commun pour eux, puisque les gens, en règle générale, ont beaucoup de mal à parler il y a une espèce de crainte de dire ben ouais. Non, en fait, j'ai pas envie de faire ça, ça me plaît pas, ça ne me convient pas. Il y a vraiment une peur de parler parce que une peur des représailles derrière, une peur d'être mal vu.
Alors selon l'attitude du patron, hein, parce que lorsque l'on entend Charles, voilà, qui vient de témoigner, 31 ans, la bienveillance dans ce témoignage d'un jeune PDG qui mène 75 salariés, on se dit que c'est un patron qui peut tout entendre. Or, est-ce que vous ne pensez pas aussi que tout cela était lié à la sensibilité et au caractère de ceux qui vous avaient embauché et qui n'étaient pas prêts à entendre vous aviez envie de travailler et dans quelles conditions?
Si. Alors honnêtement, oui, c'est vrai que ça dépend beaucoup des gens qu'on a face à nous. Mais moi, mon management, c'est la génération au-dessus de moi. Ils ont encore dans l'esprit que au travail, il faut souffrir pour réussir, faut serrer les dents, c'est pas facile et qu'on n'a pas notre mot à dire. Donc c'est compliqué de faire changer cette mentalité.
Et je crois que le consulting, c'est assez dur, hein, c'est un peu... j'ai pas envie de dire que c'est marche ou crève, mais on n'est pas loin de la demande de résultats. Il me semble que vous avez toujours quelqu'un qui vous pousse. Enfin, c'est assez particulier.
Clairement, c'est un milieu qui est très particulier. En général, ça plaît ou ça plaît pas. C'est formateur. Il y a des avantages, des inconvénients, mais ouais, c'est un milieu qui est très particulier.
Mmh. Amandine, vous restez en ligne avec nous. Nous sommes toujours en ligne avec Yonel Cagnard-Leroy, qui est psychologue du travail. On va pouvoir continuer à parler de votre histoire et de ce que vous avez ressenti ensuite dans le cadre de ce travail. Et puis justement, du fait que vous avez échangé un moment avec vos collègues, vous pourrez nous parler de leur réaction qui vous a un peu surpris. Vous ne quittez pas, on se retrouve dans quelques instants.
Europe 1. Comment faire régner le bonheur au travail? Quelles sont les bonnes méthodes? Vos bonnes méthodes? Venez nous faire part de votre témoignage au 39-21. Que faire pour se sentir bien au travail? Calogero, par exemple, est une bonne solution pour se sentir bien au travail.
Exactement.
Pourquoi pas? Quelles sont les méthodes qui fonctionnent justement? On attend les vôtres. Vous êtes avec Olivier Delacroix pour en parler sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Amandine au téléphone et avec Lionel Cagnard-Leroy, qui est psychologue du travail. Amandine, vous nous expliquez que dans cette entreprise de consulting, très vite, malgré les promesses qu'on vous avait faites et tout ce qu'on vous avait fait miroiter lors de votre embauche, vous étiez senti très vite un numéro et finalement quelqu'un qui devait avoir un rendement, le plus grand rendement possible. C'est un mal-être que vous avez partagé à un moment avec vos collègues. Comment ont-ils réagi?
Ils comprenaient. Honnêtement, ils comprenaient parce que à un moment ou un autre, on passe tous par ce sentiment-là en fonction... en fait, ça dépend vraiment de votre management et de la mission aussi sur laquelle vous tombez.
Oui.
Mais je pense qu'il n'y a pas un seul de mes collègues qui ne s'est pas dit ça à un moment.
Et quelle a été leur réaction? Est-ce qu'eux aussi ont essayé à un moment de faire remonter leur mal-être à la hiérarchie, ou est-ce qu'il y avait un certain fatalisme dans leur attitude?
Alors, ça dépend des gens, mais en règle générale, la réponse est ils n'ont rien dit. Puisque, alors, il y a une espèce de mythe dans les cabinets qui est de dire alors, tu as le droit de dire une fois non à une mission. C'est ton joker.
Et si
tu l'utilises, exactement. Ouais. Sauf que dans la théorie, pareil, c'est de la théorie. Même si vous dites non, s'ils ont besoin de vous à cet endroit, tant pis, on vous y enverra. Et du coup, les gens ont un peu peur et se disent « bah non, j'attends, je veux pas griller mon joker maintenant, donc je dis rien, je serre les dents et puis j'attends que ça passe.
Mmh. » À force de serrer les dents, Amandine, début janvier, vous avez changé de mission. On vous a changé de mission plutôt, vous n'avez pas décidé de changer de mission. Et vous étiez tellement à bout nerveusement que ça n'a pas suffi. Vous avez d'abord été en arrêt maladie. Ça a été comme un point de non-retour pour vous?
Oui, pour le coup, parce que on m'a changé de mission et pour le coup, j'étais avec un manager avec qui je m'entendais très bien, qui lui est quelqu'un de très humain, dans le positif, etc., qui essaye de tirer ses équipes vers le haut. Donc, sur le papier, tout allait bien. Et en fait, j'étais arrivée tellement à bout de tout ce fonctionnement, mon corps pouvait plus. Vraiment, j'arrivais au travail, je me sentais exténuée nerveusement, mentalement. je me retrouvais à pleurer devant le client et je me suis dit, ok, stop. Mmh. En fait, stop, ça va trop loin.
On n'était pas loin du burn-out. Ce qu'on appelle le burn-out aujourd'hui, c'est cette rupture nerveuse qui fait qu'à un moment, on ne peut plus. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres émissions d'ailleurs. Lionel Cagnard-Leroy, je rappelle que vous êtes psychologue du travail. Lorsque vous écoutez Amandine, on sent qu'elle elle se sentait tellement mal dans cette situation. Qu'est-ce que vous lui auriez conseillé si elle était venue vous voir à ce moment-là ? Que faire lorsqu'on se sent aussi mal dans ce type de situation ?
J'aurais pas regardé, comme disait tout à l'heure Alexis, du côté du passé de la personne, j'aurais pas regardé du côté de l'individu. J'aurais, avec l'individu qui vient, qui se présente, regardé du côté de l'organisation du travail et de ses effets plus ou moins pathogènes sur la salariée. Mmh. C'est ça qui est intéressant. C'est une manière de reconstruire l'histoire, de la vivre autrement, de s'en décoller pour mieux l'analyser, et tout d'un coup, et ça c'est assez magique en général, en deux séances, on se décolle du problème, quand le salarié se rend compte que c'est pas lui le problème, que c'est l'organisation qui a des impacts sur lui, tout d'un coup c'est une immense respiration et il commence à penser. Il n'est plus dans l'émotion.
Mmh. Amandine, lorsque vous écoutez Lionel Cagnard-Leroy, comment vous prenez ce qu'il dit ? Est-ce que l'entreprise aurait pu changer les choses, en tout cas prendre d'autres décisions pour éviter cela, pour ce qui est de votre état à ce moment-là, de burn-out ?
Alors, changer quelque chose, je ne sais pas. Pour le coup, moi, j'en ai parlé à ma RH qui m'a dit, elle, fais-toi arrêter parce que tu en as besoin aujourd'hui. Oui. On peut le comprendre. Donc, elle a été très humaine, elle. Mais après, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est compliqué de prendre le recul nécessaire et de réussir en tout cas à se dire, c'est pas moi le problème, c'est peut-être l'entreprise dans laquelle je travaille, la façon dont on me manage, etc., qui pose problème. On a tendance à se remettre soi-même en question et à se dire, c'est moi le problème, c'est moi. Il y a un truc qui ne va pas chez moi. Et c'est très dur de prendre ce recul-là.
Et comment vous décririez ce management, justement ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il vous a mené là, le management de cette entreprise.
Pareil, ça dépend beaucoup de la personne sur laquelle vous tombez. Je suis tombée sur des gens qui étaient extraordinaires, qui arrivaient vraiment à tirer le meilleur de vous et qui arrivaient à faire ressortir vos talents. Mmh. Et c'était assez dingue. Et au contraire, je suis tombée sur des gens qui, de par leurs paroles, qui étaient toujours blessantes, qui n'arrivaient pas en fait à vous donner quelque chose de positif.
Incroyable dans votre témoignage, c'est qu'on sent que dans cette entreprise, il y a plein de moments où vous vous êtes senti porté, accompagné par certains managers. Et puis, on apprend qu'on vous change. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Est-ce que c'est la politique aussi de ces entreprises, à un moment, de changer tout le temps pour éviter qu'on s'installe, qu'on s'installe dans une sorte de confort ? Est-ce que c'est la politique de ces entreprises-là ?
Exactement. Moi, on m'a dit il faut savoir travailler avec tout le monde, il faut savoir s'adapter, ce que je peux entendre aussi.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a des gens qui travaillent plus ou moins bien ensemble, qu'il y a des tempéraments aussi, on s'entend plus ou moins bien. Et que ça rime à rien de mettre des gens dans une équipe s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne bossent pas de la même façon. Je ne suis pas sûre que le résultat soit très positif. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Et je l'ai très mal vécu. Et alors qu'avec d'autres personnes, vraiment, je revivais. Donc, moi, je ne vois pas forcément l'intérêt de mixer à chaque fois les équipes et de changer, etc. Mais...
Bon, en tout
c'est
cas,
comme ça que ça fonctionne aujourd'hui.
Amandine, l'important, c'est qu'aujourd'hui, après être passée par cette période difficile, forte des enseignements de cette expérience, vous allez mieux et que vous souhaitez intégrer une entreprise qui prendra, comme celle de Charles, plus soin de ses salariés et vous serez certainement plus attentive aux choses qu'on vous promet la prochaine fois lors de votre entretien d'embauche. En tout cas, je sais que vous allez mieux aujourd'hui et c'est bien là le principal. Merci en tout cas pour votre témoignage, Amandine, cet après-midi. Merci aussi à Émilie, à Alexis et à Charles de nous avoir partagé leur expérience, leur histoire. Merci aussi pour les éclairages et les conseils de Lionel Cagnard-Leroy, psychologue du travail. Le temps passé dans une vie à travailler est considérable. Alors, il ne doit pas se résumer à être dans la souffrance et le labeur. Et les Français l'ont bien compris, de plus en plus d'entreprises constate qu'un salarié heureux est un salarié plus productif. Si chacun y trouve son compte, c'est une relation gagnant-gagnant. Ça a été de nombreuses fois vérifié depuis certaines années. De nombreux aménagements sont possibles, on l'a vu. Sieste, bureau volant, télétravail, pour que chacun se sente bien et que chacun sente qu'on valorise son travail, qu'on fait confiance. Vous pouvez continuer à en discuter.
Oui, vous discutez entre vous sur la page Facebook de l'émission, sur la page Europe 1 et puis Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble du deuil périnatal, un sujet tabou qui concerne pourtant des milliers de personnes chaque année. Quelle vie après ce douloureux événement? Si après le décès de votre bébé, vous avez été parent rapidement, si vous avez aidé un membre de votre entourage à faire face après le deuil périnatal, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Nous serons là pour vous écouter. J'étais ravi, ma chère Ambline, de passer cette heure à vos côtés.
Également.